dans la troisième émission du podcast de la librairie La BD, 50 Grande Rue de la Croix-Rousse, 69004 Lyon. Vous avez toujours toutes les infos de la librairie à www.labd.net et on a un nouveau site pour les commandes à récupérer sur place, c'est www.labd.info. Ce soir, on va vous présenter 5 albums et le thème de ce soir, c'est le post-apo. Alors le post-apo, c'est en fait une sous-branche de la science-fiction. Alors une branche quand même assez solide parce que c'est une mécanique qui est de plus en plus utilisée dans les récits de science-fiction. Et ce qu'il y a d'aussi pratique avec ça, hors pandémie Covid, c'est quand même un genre qui se renouvelle sans cesse depuis une trentaine d'années. Et il y a tout le temps des œuvres liées à cette actualité. Donc ce qui est assez pratique pour nous ce soir, notamment on peut parler par exemple de Happy End d'Olivier Jouvray et Benjamin Jurdic, qui peut, par certains aspects, s'approcher du post-apo, ou en tout cas de quelque chose pendant une catastrophe, sans trop vous spoiler. Et par exemple, aussi, à la fin du mois d'avril, il y a la fin d'une série post-apo, qui nous tient un peu à cœur au groupe, là, je crois, c'est Gung-Ho. Donc voilà, le post-apo, comment ça marche et pourquoi ça marche? Alors en fait, il faut savoir que c'est un genre ultra populaire et qui, mine de rien, est assez pratique pour interroger tout un lot de sujets. Alors, quelques mécaniques principales d'un récit post-apocalyptique. Ça commence souvent par une fin de société, ou en tout cas la fin d'un monde. L'action souvent d'un récit commence in situ, avec soit en pleine catastrophe, soit il y a une catastrophe qui s'est passée il y a alors, un jour, deux jours, un an, 10 ans, 1000 ans. Tout l'intérêt d'un récit post-apocalyptique, c'est qu'il va interroger autant notre rapport à la société et comment la vie reprend après. La raison de la catastrophe n'est pas toujours explicitée. Des fois, ça va être vraiment un gros sujet du bouquin. Et des fois, c'est juste comment reprend la vie après. Et ça peut être un intérêt autant politique, écologique, où des fois, on suit juste un personnage, un groupe de personnages. Et c'est pour ça que c'est quand même assez intéressant. Parfois même, il n'y a pas du tout de catastrophe. Et on enlève juste un élément de notre société contemporaine. Et on voit comment vont évoluer les personnages avec. Là, j'avais notamment pensé à ça. Alors, c'est par exemple Ravage de Barjavel. En fait, au départ, on enlève justement la technologie qui marche plus, où il n'y a pas de météorite qui s'écrase sur Terre, il n'y a pas d'explosion nucléaire, mais peu à peu la société change à cause de ça. Et enfin, le post-apo, c'est aussi un genre qui est assez riche. Parfois, on est dans la SF, parfois, on est plus dans le récit d'anticipation. Parfois, on va aller près de l'utopie, plus souvent la dystopie dans le post-apo. Et même, on peut rapprocher ça aussi de ce qu'on appelle les Robinsonades, quand notamment, on doit avoir des récits de survie. Parce que le post-apo, pas à chaque fois, mais tourne souvent autour de réapprendre à vivre pour un personnage ou un groupe de personnages. Bon, ça c'était tout pour cette grosse intro. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Andy qui va nous présenter son premier album. Et voilà.
Bah moi du coup je voulais parler de Eden de Endo Hiroki qui est sorti en 1998 et là qui ressort tout juste dans une édition hyper jolie en édition de luxe. Ça reprend 2 tomes à chaque fois, donc je pense qu'il devrait y avoir 9 volumes dans cette édition. En gros, Eden, qu'est-ce que c'est ? Eden, bah, comme le titre peut le laisser penser, ça va faire référence un peu au jardin d'Eden, parce qu'on va commencer avec 2 personnages qui semblent être un peu les nouveaux Adam et Ève de peut-être le 22e siècle, 23e siècle, parce qu'il y a une épidémie qui a ravagé le monde, bizarre parce que ça sonne un peu comme quelque chose qu'on entend un peu chaque semaine, mais du coup cette épidémie va en fait un peu cristalliser la peau des gens, et ils vont se liquéfier de l'intérieur, donc c'est assez charmant. Et on va suivre en fait l'histoire de ces 2 personnages qui essaient de s'en sortir avec un scientifique qui étudie pour faire peut-être un vaccin, vu qu'ils ont l'air immunisés. Le souci, c'est que très vite, il va y avoir un groupe de mercenaires qui va foutre un peu le bordel. Et ce qui est vraiment chouette dans Eden, c'est que finalement, l'histoire va pas tourner du tout autour de ces personnages-là. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on va découvrir d'autres personnages après, donc, dans une société complètement dévastée, il y a quasiment plus personne, et comme dans beaucoup de trucs de post-apo, la nature a repris ses droits. C'est de la survie au jour le jour, et c'est vachement cool. L'auteur est vraiment intéressant, moi j'aime beaucoup dans ses albums, il va pas juste écrire une ligne ou deux pour parler de son œuvre. Non, là il y a vraiment des bons gros pavés où il parle un peu de ses influences, et notamment lui il a été énormément inspiré par Akira, qui était le premier manga sorti en France pour le coup, et niveau SF c'est un peu une grosse claque. On peut retrouver des petits clins d'œil, ou clins d'œil à Ghost in the Shell notamment, vu qu'on va parler pas mal de technologie, de robotique qui supplante un peu le corps humain. Il a été inspiré aussi pas mal par Evangelion, il le dit au début. C'est assez violent, donc c'est pour ça que c'est en seinen, ça fout de la tripe un peu partout, faut y aller avec un tablier. Mais c'est vraiment une œuvre qui est hyper intéressante parce que l'auteur a pas voulu faire un récit d'action classique, en fait il a voulu vraiment faire un truc social, et c'est un pari réussi.
Ben merci Andy. C'est vrai que notamment chez Endo Hiroki, il laisse très peu de choses à l'interprétation. C'est un récit choral dans le sens où il y a un moment où on va être avec les héros, enfin les survivants. D'autres fois, on est avec des sections de militaires. On va aussi nous parler pas mal de religion dedans. On est aussi avec les scientifiques. Et en fait, c'est-à-dire, l'auteur, il a vraiment créé un univers. Il essaye d'expliquer à peu près tout ce qui se passe. Il essaye de laisser aucune inconnue, en fait. Et notamment, il y a d'autres œuvres qui vont traiter du post-apo, mais qui vont être beaucoup plus
Évasive un petit peu, ouais.
évasive, plus dans le flou, ça va être plus l'imagination du lecteur qui va devoir travailler un peu plus pour essayer de recoller les morceaux. Et notamment, c'est peut-être ce qui se passe un peu plus dans le second récit qu'on va vous présenter. Et ça va être à toi, Quentin.
Alors bonjour, moi aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter donc Le Voyageur de Koren Chanmi. Le Voyageur, ça commence sur une route américaine de toute évidence en 1943, où on commence avec un homme qui se balade sur cette route, qui a un sac de jute sur le dos, vient s'arrêter à côté de lui en voiture, un homme qui le prend en stop et avec qui il va avoir une discussion. On comprend assez rapidement que cet homme est un vendeur de Bible, mais quelque chose à faire que le voyageur qui vient d'être pris en stop va être assassiné par ce dernier. Et le premier chapitre s'arrête à cet instant-là où l'on revoit en fait ce voyageur se relever malgré la balle qu'il a prise dans le corps et une ellipse se passe et on se retrouve donc en 2033. Donc on est passé de 1943 à 2033. Puis il va aller dans une sorte de festival un petit peu glauque où les gens se droguent avec des drogues nouvelles, où il se passe tout un tas de choses un peu étranges. Et on sait que quelque chose va se passer et que ce festival peut-être prendre fin un peu plus vite que ce qu'on pensait. Puis une autre ellipse s'enclenche jusqu'en 2107, etc. Et en fait, tout le long de ce livre, on va avoir le droit à des ellipses de quelques siècles, parfois peut-être plusieurs millénaires, c'est pas toujours dit. Et on suit ce personnage qui, de toute évidence, est immortel et qui voit peu à peu l'humanité péricliter, disparaître ou se transformer. Mais de toute évidence, elle va vers sa fin. En quoi c'est un récit post-apo? C'est un peu différent d'un récit des récits post-apocalyptiques dont on a l'habitude de traiter. On ne sera pas dans une histoire de zombies, une histoire où on est dans l'urgence. Alors l'urgence tout de suite, c'est qu'on suit ce personnage qui voit le monde dépérir. Et ça donne une vision un peu différente de celle qu'on a l'habitude dans un récit post-apo. C'est pour ça que j'ai choisi cet album. Pour Koren Chanmi est un auteur israélien qui, à l'heure actuelle, a fait plusieurs autres récits. J'aime notamment Le Bionique, qui était très intéressant, qui était aussi un récit de science-fiction, mais qui cette fois-ci était plus sur la robotique et le transhumanisme, en quelque sorte. Et il avait fait plus récemment un bouquin, je conseille autre, qui était sur l'inventeur de Donjons et Dragons, qui était hyper intéressant. Vous voyez un petit peu la chute de ce personnage. Si d'ailleurs ce bouquin vous plaît, je vous conseille assez volontiers un bouquin de Velleman dont on reprend un petit peu le style et qui m'a rappelé pas mal Le Voyageur et qui s'appelait Les derniers jours d'un immortel. Donc voilà, pour remettre quelque chose un peu autour de l'immortalité, puisque c'est ce que j'ai un peu oublié de dire. Certes, le bouquin traite de la fin de l'humanité, mais ceux qui aiment les récits où on met en scène des personnages immortels, c'est assez intéressant à suivre. Voilà.
Eh ben merci beaucoup, Quentin. Donc pour revenir un tout petit peu sur l'album, tu disais que c'était assez différent la manière dont était traité le genre post-apo dans ce récit. C'est vrai qu'en fait, le post-apo là-dedans est plus quelque chose qui est sur le fond. Le récit principal tourne autour de la quête de ce personnage qui semble être immortel puisqu'il traverse les années. Alors c'est que en fait à travers les 7 chapitres, en fait ça se passe en 7 époques et à 7 épisodes, où on voit peu à peu péricliter qui se passe autour de lui. Mais c'est vrai que l'intérêt c'est plus qui est ce bonhomme, est-ce que c'est vraiment un humain, est-ce que c'est un dieu? Qu'est-ce qui se passe et...
Si je me permets, pour rebondir là-dessus, moi ce que j'avais bien aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est que l'humanité en question ne s'en rend pas vraiment compte qu'elle est en train de disparaître. Nous, on s'en rend compte parce que ce personnage a des points pour voir que l'humanité disparaît petit à petit, mais les humains et la civilisation dans laquelle on se trouve à chaque moment où on suit ce personnage, elles ne se rendent pas compte de leur fin imminente. Et c'est intéressant, ça permet d'avoir un peu une réflexion aussi sur ce qu'on est et sur ce que les personnes qui étaient avant nous aussi pouvaient ressentir. Est-ce qu'on ressent la fin du monde si elle arrive? Est-ce que c'est juste un changement? Est-ce que voilà, il y a aussi ça qui est porté par ce livre.
Du coup, là, on va passer au troisième d'entre nous, qui va aussi nous présenter l'histoire d'un homme un peu mystérieux. Et voilà, ça va être à Vincent.
Bonjour à tous, j'aime bien, c'est moi l'homme mystérieux. Alors, bon, comme j'ai l'habitude de bafouiller quand je parle devant un micro, moi j'ai pris le temps d'écrire une petite chronique pour mon coup de cœur. Donc on parle du Convoyeur, de Dimitri Armand et Tristan Rouleau, aux éditions Le Lombard. Alors, pour changer notre quotidien covidien, ce n'est pas une pandémie grippée qui a poussé le monde dans une apocalypse destructrice, mais bien une bactérie, dont on ne connaît pas trop l'origine, qui s'attaque au fer. Elle le transforme en une sorte de poussière. Cette rouille, c'est le nom qu'on lui a donné, rend friable tout ce qu'il est constitué de fer. Alors au début de l'album, on comprend assez vite que tout ce qui tient la société s'effondre. Les clous, les armatures, les bétons armés, les vis, etc. Par conséquent, l'ensemble des bâtiments à déconstruction. Bref. Les villes, les moyens de locomotion, tout s'écroule, c'est l'âge de pierre. Mais l'imagination de l'auteur s'arrête pas là, car le sang de l'homme lui-même est composé de fer, et ça, ça change tout. Les êtres humains survivants voient leurs gènes modifiés. Certains ont des transformations physiques, des cornes, des membres supplémentaires. D'autres ont développé des capacités hors normes, telles des mutants. Production de feu, sens développé. À tel point qu'ils pourraient jouer dans Marvel. Ce qui est marquant dans cet album, c'est que le genre post-apocalyptique est présenté avec tous les codes d'un bon western. Et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que j'adore les westerns. La ville est tenue par un bandit charismatique où règne la loi du plus fort. Le saloon comme lieu de réunion. Le héros solitaire sur son cheval à la Lucky Luke. Bref, il faut quand même rappeler que Armand est le dessinateur des excellents westerns Sykes et Texas Jack. Soit dit en passant, dessin magnifique de Armand avec des vraies recherches de personnages, des décors splendides, c'est un vrai régal pour la lecture. Précisément là, on suit le récit donc d'un convoyeur, personnage ténébreux, entouré de mystères, qui accepte les missions les plus difficiles avec comme seul mot d'ordre « ma parole et ma loi ». Il y a un peu de Chuck Norris dans la maxime d'ailleurs, je trouve. Son job est de transporter tout ce qu'on lui demande avec comme seul paiement le fait que les commanditaires doivent avaler un œuf. Et cet étrange paiement par ingestion rajoute à l'aventure une dimension SF, fantasy, intrigante, dont on commence à saisir les conséquences au cours du premier tome, mais qui nous rend très impatients de lire le second rapidement. Soit dit en passant, il arrive le deuxième tome, je crois, pour la fin du mois. Les auteurs ont rajouté tous les personnages nécessaires à une bonne série. Il y a le méchant des méchants, il y a la gentille qu'on doit protéger, il y a les religieux qui doivent sauver le monde des méchants, il y a un personnage secondaire intrigant, etc., etc. Ce premier tome laisse un certain nombre de questions en suspens. Quelle est la véritable quête du convoyeur? Quels sont ces œufs mystérieux qui concluent chacun des pactes? Qui est la femme qui apparaît en parallèle du récit dans les dernières pages? Etc., etc. On a vraiment un premier tome qui nous laisse présager une très très bonne série post-apocalyptique. Dimitri Armand au dessin, Tristan Rouleau au scénario, sorti en juin 2020, le tome 2 en approche.
Merci beaucoup Vincent. J'ai noté peut-être un peu moins de choses sur Le Convoyeur, parce que du coup...
Parce que tu m'aimes moins.
Non, parce que c'est un récit plus court, parce que tu le fais si bien. Parce que j'ai moins à raconter. Donc voilà, donc là on va passer à l'avant-dernier d'entre nous, ça va être Simon qui va nous présenter...
Simon Dufleuve. N'y voyez aucun rapport, c'est juste que c'est une super bande dessinée. C'est un petit peu, on va dire, la... je suis parfois un peu la caution patrimoine de l'équipe. Simon Dufleuve, pour information, c'est une bande dessinée qui a déjà une bonne cinquantaine d'années. En fait, elle a été créée par Auclair, qui est un génie oublié de la bande dessinée, malheureusement parti trop tôt, parce qu'il est mort alors qu'il n'avait même pas 50 ans. Et qui avait été découvert par Greg. Il avait fait partie un petit peu de toute cette équipe que Greg avait engagée pour le journal Tintin, avec Cosset, dont il empruntait, entre guillemets, un peu le style, et Herman aussi, avec qui il va partager un certain nombre de sujets. Donc, Simon Dufleuve, c'est une bande dessinée qui est apparue pour la première fois en 73 dans le journal de Tintin, avant de connaître une publication en album un peu plus récente, hein, puisque le premier tome de la série était sorti, lui, en 76. Pour information, une très bonne intégrale est sortie en 2015 chez Le Lombard, qui était déjà l'éditeur historique, hein, de Simon Dufleuve. Et cette très bonne intégrale reprend entre autres aussi des récits inconnus ou méconnus d'Auclair. Donc je vous l'ai dit, cette bande dessinée-là, elle est née au milieu des années 70, c'est-à-dire à un moment où, dans la guerre froide, il y avait une sorte de détente un peu entre le bloc américain et soviétique. Je dis un peu parce qu'on a quand même enchaîné sur la guerre fraîche dans la foulée, mais il s'est passé quelque chose d'un peu particulier à ce moment-là, c'est que la crainte de l'apocalypse nucléaire s'est un peu éloignée. Et au niveau de la narration, dans les bandes dessinées, les romans, les films, etc., on va passer à une autre crainte. Et là, si c'est pas l'apocalypse nucléaire qui est craint, en fait, on présage déjà une sorte d'apocalypse écolo. Sans qu'on sache trop pourquoi ni comment arrive ce qu'aujourd'hui on appelle un effondrement, et qui déjà, à l'époque, était un thème repris. Donc, ce n'est pas un cas unique au milieu d'un paysage dont seraient absents tout autre exemple, non, parce que, pour info, entre la fin des années 70 et le milieu des années 80, on a eu un certain nombre de bandes dessinées qui ont justement parlé un petit peu de cet apocalypse écolo. Par exemple, on a eu, parmi les plus connus, évidemment, le... Alors, Jérémia, c'est un peu particulier, Jérémia de Herman, qui date vraiment de la toute fin des années 70, où on a une guerre raciale qui a provoquer un effondrement, mais après on retrouve par exemple Neige en 87, ou moi, une bande dessinée que j'adore et que je vous encourage à essayer de trouver d'occasion, ça se trouve assez facilement, Hybride, d'une autrice qu'ils appellent Séraphine, qui était sortie tout début 84. Mais la même année est sorti également le Transpersonnage, hein, de Loeb et Rochette, là, est ressorti là, récemment dans une très belle édition. Et même si on le connaît un peu moins, le Aria de Welland, qu'on voit souvent comme une sorte de fable héroïque fantasy, est en fait, on s'en rend compte par des petits indices, une fable post-apocalyptique. Donc, Simon Dufleuve, pour revenir à la série principale, est un petit peu comme Le Convoyeur, en fait, une sorte de western post-apocalyptique. On va suivre l'histoire d'un homme. Au début, l'histoire commence au moment où cet homme se réfugie lors d'une tempête de neige dans les montagnes, dans une grotte. Dans cette grotte, il va découvrir un totem assez, assez angoissant. Et quand il va allumer le feu dans cette grotte, on va réaliser que l'homme est couvert de peau de bête, en fait. Donc très rapidement, on va se dire, tiens, c'est une bande dessinée qui, au mieux, est médiévale, peut-être même encore plus ancienne. Et par de petits indices, petit à petit, on va réaliser que cette bande dessinée se passe en fait après la fin du monde. Et que les sociétés humaines se sont retournées vers l'agriculture pour une grosse partie de la société et l'élevage pour les nomades qui vont être en grande partie au centre de cette bande dessinée. Simon Dufleuve, ça va être une sorte de série justement qui va partir sur du post-apocalyptique et qui petit à petit va également se transformer en sorte de grand trip chamanique. C'est une... Ouais. C'est une série dont malheureusement on n'aura jamais vraiment eu la fin, puisque Auclair était mort avant de conclure sa série. Que dire de plus ? Que c'est vraiment, vraiment passionnant. Alors, si j'ai juste une seconde, je voudrais vous lire un tout petit extrait de la bande dessinée.
30 pages.
pour voir si ça peut évoquer chez vous quelque chose. Alors, les grandes puissances, empêtrées dans leurs contradictions idéologiques, armées jusqu'aux dents d'engins atomiques capables de les rayer mutuellement de la carte de la planète, réfrénèrent leur désir de domination et évitèrent à grand-peine l'Holocauste. Les gouvernements incompétents accentuèrent la confusion. Les structures qui se désagrégeaient finirent bientôt par éclater, tant la désaffection des populations et leur lassitude étaient devenues grandes. Des troubles éclataient partout, les services du maintien de l'ordre étaient débordés. Ce fut la chute. Voilà. Toute ressemblance avec une actualité serait purement, purement anticipée. Voilà, que vous dire de plus à part que voilà, de vous diriger vers cette très chouette édition intégrale là, qui date de 2015, qui est complètement disponible hein, en librairie, qui est sortie en fait pour les 40 ans de la série. C'est vraiment une très très bonne idée de la part du Lombard d'avoir fait cette réédition. À l'occasion, n'hésitez pas aussi à vous plancher sur les autres bandes dessinées d'Auclair, entre autres celles qu'il a faites avec Riondet, qui sont tous de petits chefs-d'œuvre de bandes dessinées.
Merci beaucoup Simon. Alors juste, mini point technique, c'est juste pour revenir sur l'intégrale. Alors c'est pas un seul album, hein. L'intégrale elle est composée en
trois
albums, parce qu'à l'origine il y a 9 albums, plus notamment, c'est ça ce qu'il y a d'intéressant dans les, comme tu l'as dit en intro, dans les intégrales, ils ont eu la bonne idée de mettre pas mal de mini-récits, je crois, qui étaient, qu'on lançait...
Dont la balade de Cheveux de Feu,
voilà.
Qui a créé, on va dire, dans lequel a été créé le personnage de Simon Dufleuve, mais qui a été éreinté par la critique, le public, etc., à cause de trop grandes ressemblances, peut-être, avec une œuvre de Jean Giono.
Auclair apparemment était vraiment assez fan de toute la culture celtique et c'est notamment pas mal de choses qui va insuffler un peu à l'intérieur de ce récit de SF, ne serait-ce déjà que à travers le nom de certains personnages ou de certains groupes de personnages. Il va notamment avoir le groupe des guérisseurs qui va appeler, qui est un groupe au milieu de tout ça.
D'ailleurs, on considère que le plus gros chef-d'œuvre d'Auclair, à part Simon Dufleuve,
Bran Ruse,
ouais. Voilà, qui est une bande dessinée qui est en français et en breton.
Oui, je ne savais pas qu'il y avait en breton.
Ouais, en fait, toute une partie de la bande dessinée, alors la BD, elle est soit en noir et blanc pour les parties qui sont en français, soit en sépia pour les parties qui sont en breton.
Pour la dernière partie, je vais vous présenter Période glaciaire de Nicolas de Crécy. Donc c'est un album qui est sorti en 2005. Alors c'est un album de commande, dans le sens où c'est l'un des premiers, alors je ne me rappelle plus si c'est le premier.
C'est le premier
de la collection du Louvre, en fait. Oui. Alors qui a eu par la suite quand même des noms, alors de Crécy, bon, c'est pas n'importe qui non plus, mais ça a eu aussi après des noms assez connus. Hein. Il y a eu Matsumoto qui a fait Chat du Louvre, Jiro Taniguchi qui a fait Le Gardien du Louvre, Florent Chavouet qui a fait L'Île Louvre. Marc-Antoine Mathieu, qui avait notamment fait Les Sous-sols du Révolu, plein d'autres, David Prudhomme, etc. En tout, pour l'instant, je crois qu'il y a 25 albums dans la collection, donc il y en a eu quelques-uns. Et du coup, Nicolas de Crécy était le premier à entamer cette collection. Donc, petit résumé de l'histoire, en fait, tout est recouvert de glace, et on suit un petit groupe d'explorateurs qui cherchent à atteindre un point en particulier, et l'un des personnages principaux, qui va être aussi l'un des personnages qui va le plus parler dans ce récit, est Hulk, qui est un tiers chien, parce qu'il est un tiers chien, un tiers cochon, et un tiers philosophe. Malheureusement pour lui, Hulk, il a pris un coup de froid, vu qu'il fait très froid dans cet univers, et un jour il va être un peu laissé en dehors du groupe parce qu'il n'arrive plus à trouver une bonne piste en fait, avec sa truffe qui est plus affûtée, on va dire, et il va tomber dans un trou et se retrouver dans les vestiges que nous on va reconnaître comme étant le Louvre, mais que ces personnages ne connaissent pas. Et là où ça interroge quelque chose qui moi me plaît particulièrement dans les récits de post-apo, c'est comment est-ce que des personnages vont interroger l'environnement dans lequel ils vivent et dans lequel ils circulent, et comment est-ce que nous, ça nous renvoie à notre monde à nous. Et là, ça va être centré notamment sur le monde de l'art, parce qu'en fait, on va suivre ces personnages qui déambulent dans les couloirs du Louvre en fonction des tableaux, des œuvres qu'ils vont croiser. Ils vont à chaque fois essayer d'interpréter ce qui se passait dans l'autre monde à nous, qu'un monde qu'eux ne connaissaient pas. Ils ont plus du tout, en tout cas, ils semblent avoir perdu tous les repères qu'on a nous. Et en fonction des tableaux qu'ils vont croiser, ils vont s'imaginer tout un tas de choses sur une époque révolue, sur leurs ancêtres, voilà. Au départ, ça commence comme quelque chose qui est très drôle, parce qu'ils font des rapprochements que nous, on pourrait voir comme quelque chose d'assez absurde, notamment tous les dessins, toutes les peintures de grands maîtres qui vont être voilà, très chiadées. Là, ils vont dire « Ah, bah, ils avaient sûrement des machines technologiques très poussées pour peindre des trucs comme ça. » Et notamment, tout ce qui va être un peu plus abstrait, art abstrait ou choses comme ça, ils vont dire « Ah, mais ils faisaient aussi dessiner les animaux ou les enfants aussi, ils avaient le droit. » voilà. Et notamment, ce qui est marrant, c'est que, pareil, tout ce qui va être de l'ordre de la sculpture, quand il y a des vestiges de sculptures étrusques ou très anciennes et qui ne sont pas forcément très détaillées, ils vont se dire « Ah, ils avaient quand même des bêtes très étranges aussi à l'époque. » voilà. Et du coup, il y a tout ce rapport-là qui, au départ, est très drôle. Et mine de rien, il y a quelque chose que j'ai trouvé qui s'installe au fur et à mesure où il y a un rapport à l'art qui est assez proche d'une autre, en fait, même de n'importe quel quidam qui, dans un musée, des fois on y va, mais évidemment on ne connaît pas les œuvres. Et même des fois, il y a des interprétations qu'on n'a pas, qu'on essaye de se faire nous-mêmes avec nos connaissances, mais qui ne sont pas forcément, à mon avis, si éloignées du cheminement que vont faire ces personnages-là.
Je peux me permettre une petite parenthèse?
Vas-y.
En fait, ce qui est marrant dans cette bande dessinée, c'est que les archéologues du futur ont perdu toute idée de muséologie. Ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est la muséologie, et donc ils vont se retrouver complètement perdus face à des œuvres qui vont réussir, grâce à leurs chiens qui ont des odorats carbone 14, à identifier sur des périodes qui sont parfois très très éloignées. Et la question aussi qui va se poser un petit peu de nous, c'est savoir pourquoi est-ce que dans un même endroit, on va avoir des œuvres qui ont parfois jusqu'à 2000 ans d'écart. En plus. Je peux juste dire un truc aussi, tant qu'on y est, c'est que ça a été la première fois qu'une bande dessinée a été exposée au Louvre. Un glaciaire, il y a eu c'était du coup en 2005, une exposition qui a été concomitante avec la sortie du bouquin. Et moi je me souviens, puisque j'y suis allé, et c'était assez émouvant justement de voir
la première bande dessinée exposée
au Louvre. Voilà, la première exposition de bande dessinée au Louvre. C'était quelque chose. Octobre 2005.
Et du coup, ce que je trouvais aussi, que je trouve de très intéressant en fait dans cet album, c'est qu'en fait, à travers la découverte d'œuvres d'art, ou même avant qu'ils rentrent dans le musée, chaque élément qu'ils vont trouver ne va plus du tout avoir la même fonction. Alors notamment, ils sont guidés par une relique. Donc là, c'est spécial pour Marianne. Ils ont un écusson de l'Olympique de Marseille. Où il y a écrit « droit au but », et en fait c'est un peu ce qui les motive, ils se disent « mais ça devait vraiment être quasiment un mantra pour les personnes de cette époque-là qui devaient aller au fond des choses directement », et eux ils ont récupéré c'est un morceau d'écharpe ou de sacoche, quoi, en tout cas il y a le logo du O et du M, ils se demandent quelle signification ça a, ils sont guidés par ça, et en fait voilà, les éléments les plus banal, qu'on pas forcément une grosse valeur. Alors, hormis pour certaines personnes, ça aurait eu une valeur énorme.
À jamais les premiers.
À jamais les premiers, Champions Project, tout ça. Mais en fait, voilà, le moindre élément, par exemple, ils vont aussi croiser, avant de rentrer dans le musée, un graffiti sur un panneau signalétique qui va avoir pour eux une valeur quasiment de peinture rupestre. Voilà. Il y a notamment un album un peu particulier en BD qui a été fait, c'est Cité Ruine, qui a été fait par Jérôme Dubois, qui est en fait la suite d'un album, ou un album copie, un album qu'il avait fait chez Cornelius qui s'appelle Cité-Ville. Et notamment, ce qu'il y a de... Alors, c'est très particulier comme album, mais en fait, il a repris l'ensemble des cases de l'album Cité-Ville, qu'il a enlevé, en fait, à l'intérieur, il a enlevé tout ce qui est personnages, bulles de dialogue, et il a juste laissé des paysages complètement désertés, complètement en ruine, voilà, où en fait, l'album, c'est uniquement le lecteur qui visite une cité en ruine, un album entre guillemets en ruine, un album qui a été complètement vidé de tous ses habitants. Et voilà. Et
ça, du coup, c'est fascinant à lire d'ailleurs en parallèle les deux albums.
Vraiment, vraiment ça, très très chouette comme album. Et en fait, ça interroge quelque chose qui est assez intéressant. Alors, c'est le philosophe Georges Didier Huberman qui avait ça dans un bouquin qui s'appelle L'image survivante aux éditions de Minuit. Et c'est un bouquin qui interroge en fait ce qu'il appelle l'image survivante, qui a été un concept qui a été élaboré par Abby Warburg avant lui, qui parle en fait de comment est-ce que les images, que l'homme crée des images ou crée des formes, comment est-ce que sans cesse les images sont remises dans la machine et réinterprétées un petit peu depuis la nuit des temps. Comment est-ce qu'une image trouve son sens? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'œuvres, pas forcément post-apo, mais dans le post-apo, il va vraiment avoir ça qui va être peut-être un peu plus souligné, parce que là, ça va même être des fois dans des choses qui vont être immobiles, notamment juste, comme je disais tout à l'heure, des lieux qui vont plus du tout avoir le même sens, plus du tout mais qui vont être réinvestis d'une autre manière. Et là, notamment, Nicolas de Grécy, lui, il fait ça avec les œuvres d'art, qui sont réinterprétés par un groupe de survivants. Et voilà, moi c'est une des mécaniques qui me plaît beaucoup dans le post-apo, parce que c'est à la fois, il y a de la fiction où on imagine tout un groupe de personnages et leur rapport au monde, et forcément la manière dont ces personnages vivent différemment de nous dans un univers qui est à la fois différent mais qui se rapproche mine de rien aussi beaucoup d'une autre. C'est pour ça que je trouve que c'est un genre qui est vraiment très riche, quoi. Voilà.
Petite précision aussi sur Nicolas de Grécy quand même, qui est un dessinateur magnifique et qui a aussi dessiné, moi ce que j'ai, c'est un vrai coup de cœur pour moi, les deux Visa Transit, ouais. En fait, où il reprend la Citroën Visa familiale pour aller se balader en Europe et fuir le nuage de Tchernobyl. Voilà, j'aime beaucoup Nicolas.
C'était tout pour l'émission de ce soir. On vous promet pas forcément d'en refaire une tout de suite, parce que là on a mis 4 mois à en enregistrer une.
Ouais, on a des excuses, hein. Tout le monde a été un peu occupé ces derniers mois.
Je balance la pierre à personne. Hein. Simplement, on trouvait pas forcément de sujet ni de temps et tout à chaque fois. Donc il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres durant l'année, mais on vous dit pas quand. Vous pouvez toujours écouter les 3 émissions maintenant qui existent sur les différentes plateformes mis à disposition. Et puis jusque-là, lisez des BD, prenez soin de vous, et puis à plus.
À plus, allez.